magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes 8 milliards et même si nous n'avons pas tous le même niveau de responsabilité dans la dégradation de l'état de notre planète, nous devons tous apprendre à vivre en limitant le plus possible notre impact. Oui, mais comment, me direz-vous ? Eh bien, grâce au low-tech. Ce sont des technologies et des savoir-faire innovants que nous pouvons fabriquer nous-mêmes pour produire notre énergie, notre nourriture ou recycler nos déchets. Corentin de Châtel-Perron et Caroline Pulz nous démontrent en ce moment, avec leur biosphère expérience, que la vie low-tech, non seulement c'est possible, mais en plus c'est sympa. Nous vous emmenons dans leur appartement laboratoire où ils vivent depuis la mi-juillet en banlieue parisienne.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes arrivés au 250 boulevard Jean Jaurès à Boulogne, donc dans l'ouest de Paris, là où a lieu l'expérience, la biosphère expérience de Corentin Châtel-Perron, que nous allons donc retrouver dans un instant. Là, je monte un escalier pour arriver au premier étage. C'est là où il nous a donné rendez-vous. Ah, voilà. Bonjour Corentin.
Bonjour Anne-Cécile.
Tu nous accueilles chez toi avec Caroline, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Merci beaucoup. Donc là, nous sommes sur le lieu de la biosphère expérience.
On est en 2040, sur le lieu et dans l'espace.
Ok, donc on a changé d'espace-temps aussi. Donc, où est-ce que nous sommes là exactement ? C'est là que commence l'expérience ?
En fait, c'est une ancienne crèche. Des années 70, 70, comme dit Caro, puisqu'elle est belge, qui est complètement vide, qui va servir à autre chose plus tard. Et la mairie nous l'a prêté pour voir comment on pourrait vivre d'ici 2040 grâce aux innovations low-tech. Donc tout cet étage-là, il nous sert comme bureau pour l'association, comme atelier, comme laboratoire, cuisine, etc. pour les volontaires et tous ceux qui participent au projet. Et à l'étage du dessus, on a aménagé l'appartement de 2040.
Nous allons aller voir l'appartement de 2040 dans un instant, mais là, nous sommes sur une terrasse, nous pouvons peut-être nous asseoir un petit peu. Là, je vois qu'il y a un petit coin qui a été aménagé avec des palettes, c'est du bois recyclé, j'imagine.
En fait, on essaie de récupérer un maximum de choses et on a toute une team de bénévoles qui viennent nous aider dans la réalisation de dispositifs low-tech, de modules, de mobilier, etc. Donc, ils sont très contents de participer au projet de leur côté.
Ils vous ont donc construit ce petit salon sur la terrasse. Il y a même le logo hein, Biosphère Urbaine gravé sur la table. Et alors, quand est-ce que vous avez commencé cette expérience ?
On a démarré en décembre dernier, on a eu les clés de l'immeuble et on a vraiment aménagé l'espace jusqu'en mi-juillet. Et là, il y a eu vraiment une armée de volontaires, de bénévoles, de stagiaires, d'experts de tous les domaines pour nous aider à créer cet appartement low-tech.
Donc il y a eu toute une phase de prototypage de l'appartement. Donc nous, on aime bien travailler par itération, hein, donc on aime bien tester des choses et puis les optimiser au fur et à mesure, parce que c'est assez nouveau en fait, ça n'existe pas trop des appartements écosystèmes. Et donc ça a pris quelques mois, oui.
Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette étape, Corentin ? Parce que c'est le résultat d'une longue histoire, on se connaît depuis longtemps, les auditeurs de C'est pas du vent vous ont déjà entendu dans l'émission. Tout a démarré au Bangladesh, c'est ça ?
Ouais, au Bangladesh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est innovation low-tech, c'est-à-dire des innovations qui sont à la fois accessibles à tout le monde, qui peuvent être fabriquées avec les moyens du bord, qui permettent de répondre à des besoins de base, donc ça peut être l'accès à l'eau, l'énergie, le recyclage des déchets, etc., et qui sont écologiques. Et du coup, suite à ça, j'ai monté une asso qui s'appelle le Low-Tech Lab, qui vise à chercher partout autour du monde des innovations de ce type-là, dans le but de les diffuser, ces savoir-faire, pour que d'autres puissent les répliquer. Et ça m'a amené à faire un tour du monde avec le bateau catamaran laboratoire Nomade des Mers, m'arrêter dans 25 pays différents pour rencontrer des gens qui développent ces solutions, les documenter, etc. Et c'est d'ailleurs là que Caroline a embarqué en tant qu'équipière.
Alors, c'était en 2019, Caroline. Comment vous êtes retrouvée dans cette aventure ?
Alors moi, je suis architecte d'intérieur de formation, donc je suis belge et j'ai toujours été attirée à amener le vivant dans les habitats. Et donc j'ai été attirée. Donc mon premier job, ça a été de créer une chaîne de production de mobilier à base de mycélium de champignons. Donc c'est la partie racinaire des champignons. Donc on peut en faire des matériaux qui sont capables de remplacer le polystyrène expansé. On peut en faire de l'isolant acoustique, etc. Et donc ça, c'était mon premier métier. Et donc c'est comme ça que j'ai été invitée sur le Nomade des Mers dans le cadre d'une web-série qui s'appelle « Les escales de l'innovation », donc qui a été réalisée par Arte. Et donc l'idée, c'était de d'accompagner l'équipage du Nomade des Mers pour étudier les matériaux biosourcés. Donc je les ai rejoints en Californie à cette époque-là, en 2019.
Corentin, vous êtes allé chercher un mycomatériau.
Parce que les gens, quand ils imaginent champignons, ils imaginent ce qu'on mange en fait. Mais en fait, un champignon, c'est d'abord toute la partie qu'on voit pas, qui s'appelle le mycélium. Mais Caroline, tu connais mieux ça que moi.
Non, tu l'expliques très bien. En fait, le champignon, c'est un fruit en fait. C'est le fruit du mycélium. C'est comme si c'était la pomme du pommier. Et disons que le mycélium, on va dire que c'est la partie du tronc, enfin, c'est du parti racinaire. Et donc c'est une partie blanche que l'on peut voir à l'œil nu. On peut le retrouver derrière l'écorce ou sur du bois mort. Et ça a la particularité d'agglomérer les déchets organiques ensemble et d'en faire un matériau.
Donc vous avez fait ce tour du monde, Corentin, 25 pays. Vous avez retenu de toutes ces rencontres les low-tech qui vous semblaient les plus intéressantes.
Ouais, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce serait génial de voir comment combiner ces innovations entre elles pour repenser notre manière d'habiter sur la planète. Et parce que c'est que des innovations qui ont été inventées dans différents contextes par différentes personnes, et je voyais que la combinaison de tout ça, ça pouvait permettre de créer vraiment quelque chose de nouveau. Et donc j'avais fait une première expérience pendant l'escale en Thaïlande sur une plateforme flottante en bambou pour combiner une vingtaine d'innovations low-tech. Et donc ça a créé un espèce d'écosystème parce que, en fait, l'idée, c'était de pas créer de déchets, que chaque déchet soit la ressource d'un système. Donc ça m'a amené à mettre des plantes qui, grâce à des bactéries qui transformaient l'urine, pouvaient puiser leurs nutriments. Il y avait des poules et un canard pour faire des œufs, un élevage de grillons. Il y avait tout un petit écosystème. Ça a créé un peu les bases de ce concept-là de biosphère, ce que j'appelle biosphère.
Vous avez quand même vécu pendant 4 mois sur votre radeau.
Bah, l'idée, c'était de vraiment tester à fond le truc. Et du coup, de tout mesurer, tout peser dès que je récoltais des plantes, de la spiruline, etc. Voir si à la fin, je finissais avec des carences ou si j'en avais marre, etc. Donc, il y avait vraiment tout un protocole scientifique qui m'a permis de voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est hyper sympa de vivre dans un écosystème lié et dépendre d'autres espèces vivantes, en fait. C'est comme si je m'étais réensauvagé.
Ça, c'était en Thaïlande en 2018. Et après, vous avez retenté l'expérience dans le désert au Mexique, un autre contexte, finalement.
Voilà, avec Caroline, on a préparé cette biosphère 2 dans le désert au Mexique. C'est un désert qui plonge dans la mer. Et là, on a voulu voir... faire une nouvelle version de biosphère avec un écosystème plus abouti, puisque entre-temps, on avait découvert des nouvelles low-tech, dont les mouches soldats noirs, par exemple. Et on a voulu voir comment, dans une zone hyper aride, qui paraît complètement hostile, puisqu'il y a des cactus, des scorpions, des crotales, etc., comment est-ce qu'on peut vivre grâce à une combinaison de low-tech. Et donc, pareil, ça a duré 4 mois, et c'était une expérience parmi les plus intéressantes que j'ai faites sur les low-tech.
Caroline, c'était votre première expérience, ça s'est passé comment pour vous ?
Alors au début, j'avais très peur à l'idée de vivre dans un milieu comme ça, isolé, hostile. Et finalement, au bout d'un mois, en fait, le corps il s'adapte.
Quel type d'adaptation par exemple ?
Par exemple, la chaleur, donc se lever tôt quand le soleil se lève tôt, parce qu'effectivement, le soleil il tapait déjà à 5 heures, donc il fallait préparer les désalinisateurs solaires pour bien les optimiser et récolter un maximum d'eau douce pour la journée. Donc ça a pris un petit peu de temps de rodage. Mais une fois qu'on a pris ses habitudes, que tout était bien rodé, ça a été un vrai plaisir de vivre dans cet environnement où on ne faisait plus qu'un en fait, avec le vivant, avec la nature, avec l'environnement dans lequel on était.
Alors vous partagez... toutes ces low-tech, c'est en open source, comme on dit, sur le site internet du Low-Tech Lab. Ça, c'est pour les auditeurs qui se disent, mais je vais aller voir quand même ce dont ils parlent. Et Il y a une réflexion qui revenait assez souvent quand vous partagiez vos expériences, c'était oui, non mais c'est sympa, mais tu fais ça au bout du monde, dans des endroits super isolés, alors qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale habite en ville. L'idée, c'était de dire, est-ce que c'est possible de faire ça en ville ?
Oui, complètement. Pour nous, c'est un défi aussi grand que d'aller dans le désert, parce qu'on n'est pas du tout de la ville. Caroline est de la campagne belge et moi, je suis de la campagne bretonne. Et pour nous, la ville, c'est un milieu assez extrême. Ici, la région parisienne, c'est une des zones les plus densément peuplées du monde. Là, ici, à Boulogne-Billancourt, il y a quasi 20 000 habitants au kilomètre carré. Donc, c'est vraiment très dense.
C'est un milieu hostile pour vous, là ?
Ouais, pour moi, c'est hostile. Vous êtes 10 millions, là, dans le coin. C'est quand même un truc extrême. Et c'est un défi parce que... Il a fallu qu'on adapte chacune, et vraiment ça a été un gros travail, chacune des low-tech au milieu urbain. Par exemple, là aujourd'hui on a de la chance, il y a du soleil, mais il y a beaucoup de jours de l'année où il y a des nuages, de la pluie, il fait froid, en hiver le soleil se lève tard, enfin c'est vraiment énormément de défis. Et puis vivre dans des petites boîtes comme ça, en fait, c'est beaucoup plus difficile que de vivre dans le désert sur 60 mètres carrés dans une tente. En fait, il y a plein de contraintes, mais qui sont pour nous hyper intéressantes.
Surtout qu'on a remarqué que quand on sort de son chez-soi, en fait, on est dans des endroits où on est obligé de payer, en fait. Il n'y a pas un espace, ok, il y a peut-être les jardins, etc., mais c'est restreint quand même en ville. Enfin, les jardins, moi, les parcs, je veux dire. Et c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier aussi dans cette biosphère urbaine, c'est de voir comment ce mode de vie low-tech, il nous permet de changer un peu nos manières de faire, de collaborer un peu plus avec les voisins, de faire des systèmes d'échange, etc. Donc voilà, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut vivre de manière un peu plus cool peut-être, avoir moins à payer de factures en électricité parce qu'on consomme 10 fois moins, pareil pour l'eau. Mais là d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a commencé à mettre des compteurs pour notre consommation en eau. Et donc en moyenne, en France, on consomme 150 litres d'eau par jour et par personne dans un habitat classique. Et là, on arrive à 33 litres pour deux par jour. Donc, ce qui est pas mal en fait. Et donc, ça nous permet de tester des choses et de voir que finalement, on peut vivre bien, quasi normalement. En fait, on change pas grand chose. C'est juste que l'appartement, on le conçoit différemment et chaque goutte d'eau, elle est recyclée en fait et elle repart dans un écosystème, dans un circuit fermé.
Alors, allons visiter cet appartement. Voilà, donc là, nous rentrons dans l'appartement et en effet, c'est extrêmement isolé. Il y a un bruit, un son étonnant. Je vous laisse l'écouter. Qu'est-ce que c'est, Corentin ?
Ça, c'est un élevage de grillons. Ils sont en train de chanter, enfin de striduler. C'est les mâles qui chantent pour attirer les femelles. Et ensuite, ils pondent dans les petits sacs qu'on voit là. Et ça fait, du coup, il y a des œufs qu'on donne à une famille de Boulogne qui élève les bébés grillons et qui nous les donne quand ils sont ados. Ensuite, on les élève pendant plusieurs semaines et à la fin, on les mange.
C'est bon, les grillons, Caroline ?
C'est un délice. Alors, on les fait frire un petit peu, un petit peu de sel et des petites plantes aromatiques. Et c'est très bien.
Il y a 2 milliards de personnes autour de la Terre qui mangent des insectes traditionnellement. Donc, on s'est dit pourquoi pas nous ? Surtout que d'un point de vue écologique et économique, c'est très intéressant.
Parce qu'ils ne consomment rien. Enfin, là, vous les avez mis dans des boîtes d'œufs. Ils mangent une espèce de chapelure, là.
Ils mangent ce qu'on pourrait manger au petit déjeuner, comme céréales. Céréales, il y a des graines. Et puis un petit peu d'eau. Et on leur donne quelquefois des petites feuilles de menthe, etc. à manger. Donc c'est assez simple. Ça donne une bonne ambiance dans la pièce. Moi, j'adore le bruit des grillons. Et on s'y attache. Alors, faut pas trop s'y attacher non plus parce qu'à la fin, on les ébouillante, mais on trouve ça très, très sympa et très adapté au milieu urbain. Et alors, faut bien les récolter entre le moment où ils ont pondu pour assurer la génération d'après et le moment où ils meurent de mort naturelle. C'est entre les deux que, clac, l'heure a sonné pour eux.
Continuons à avancer dans cet appartement. Donc, c'est assez joli. Hein. Là, je vais essayer de décrire, mais nous rentrons dans la partie... un peu cuisine de l'appartement. Donc il y a des planches avec des plantes qui sont chacune dans des petits pots avec des petites billes d'argile. C'est ce que vous mangez ?
Oui, effectivement, donc on a de la ciboulette, de la menthe, de l'oxalis aussi pour le petit côté acide.
Ouais, on essaye pas mal de trucs, il y en a qui marchent, qui marchent pas. En fait, il y a des plantes qui se plaisent très bien et d'autres non, donc on fait des tests en ce moment.
Et d'où vient l'eau ?
Alors l'eau vient de la douche, c'est les eaux usées de la douche qui sont transformées par des bactéries et qui voilà constituent ce bassin de 300 litres d'eau. Et c'est un bassin qui donc non seulement permet de faire pousser des plantes, recycler l'eau de la douche, et c'est aussi un bassin qui régule la température de l'appartement. Quand il fait trop chaud à l'extérieur, en fait, ça apporte une inertie thermique comme un climatiseur low-tech au final.
Alors vous disiez l'eau qui est l'eau usée de la douche, mais enfin classiquement quand on prend une douche, on utilise des savons, des shampoings, donc ça va dans vos plantes ?
On a fait analyser l'eau de la douche par un laboratoire, alors on ne se lave pas avec n'importe quoi, on prend des savons organiques, etc. Et le labo nous a dit, pas de problème, vous pouvez utiliser l'eau pour les plantes, elles ont même quelques trucs à puiser dedans pour se nourrir.
Et alors derrière vous, une cuisine, alors là, un peu plus classique, hein, un évier, on retrouve quelques bases de la vie ordinaire, mais je suis sûre qu'il y a des technologies là-dedans que nous ne voyons pas.
La cuisine classique, c'est qu'une impression. En fait, on a tout fabriqué. On a un système de cuisson sur mesure. En fait, comme l'unique apport d'énergie qu'on a, électrique, c'est les panneaux solaires, on a dû vraiment tout concevoir spécialement pour ça. Donc, le tableau électrique que vous voyez là, c'est relié au panneau solaire, relié à une batterie. C'est deux panneaux solaires de 2 mètres carrés. Et en fait, il y a un système, là, on voit un petit nuage et un petit soleil. On lui dit au système s'il va faire beau aujourd'hui et demain, ou s'il va faire nuageux. Et en fonction de ça, il sait quel appareil il peut faire marcher pendant la journée pour garder assez de batterie pour demain, pour qu'on puisse tous les jours avoir en mode survie au moins une douche, au moins faire cuire des œufs ou des choses comme ça. Et pareil, cette cocotte révolutionnaire qu'on appelle la cocotte du futur, tu veux présenter, Caro ?
En fait, c'est un triptyque. Donc, il y a la classique cocotte qu'on va chauffer grâce à une résistance. Et en fait, cette cocotte, on l'installe dans une marmite norvégienne. Donc, c'est un caisson bien isolé. Et donc, ça nous permet de garder un maximum de chaleur pendant que ça chauffe. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on allume la cocotte. Ça chauffe pendant une heure. On laisse cuire nos légumes à la vapeur. Et une fois qu'on termine le boulot, on rentre et en fait, le plat est chaud.
Ça divise par entre 5 et 10 la consommation d'énergie. Là, c'est le biogaz qui est en bas dans le jardin, dans lequel on met des déchets organiques, qui produit un gaz qu'on utilisera ici pour cuire des œufs ou tout ce qui est frit et tout ça.
Le biogaz est donc fabriqué à partir des déchets organiques, c'est-à-dire quand on laisse des épluchures macérées pendant longtemps, ça dégage un gaz et ce gaz, on peut l'utiliser pour faire de l'énergie.
Ouais, notre biodigesteur, c'est une espèce de système digestif de poney. Il faut imaginer comme un grand réservoir dans lequel on a mis de l'eau et du crottin de cheval. Enfin, là, à Boulogne, il y avait un poney club, du coup, c'est du crottin de poney. Et donc, il se passe là-dedans comme dans le système digestif d'un poney. On lui donne de la nourriture et puis ça va, grâce à des micro-organismes, produire du gaz et de l'engrais. L'engrais, on le donne à une ferme qui est partenaire. Et le gaz, on peut l'utiliser pour cuisiner. Et on lui donne aussi, là, l'évier, on voit qu'il n'est pas raccordé au réseau. Ça tombe dans un seau.
Donc les eaux usées de l'évier tombent dans un seau.
Ouais, du coup, il y a toujours un petit peu de nourriture, un peu de gras et tout ça. Et ça, Albert aime bien.
Alors là-dedans, c'est quoi ?
Ici, on met nos déchets organiques. Et là, Corentin est en train de se mettre à pédaler. Enfin, non, c'est pas un pédalier, c'est un manelier. Et donc, c'est un broyeur manuel. Et donc cette matière, elle devient broyée et elle repart dans un petit caisson qui est juste en dessous. Et dans ce caisson, vous voyez là on voit le déchet organique transformé et ça repart dans un caisson qui est rempli de larves de mouches soldats noirs.
Donc les déchets sont broyés manuellement et ça tombe dans un caisson où il y a plein de larves, bon c'est bien enfermé dans un caisson en bois, hein. Les larves du coup ne se baladent pas partout. À quoi ça sert ces larves ?
Donc ces larves, elles sont extraordinaires parce qu'elles ont la capacité de dégrader le compost en très peu de temps finalement. Là typiquement on a mis des déchets ce matin et elles ont transformé la matière en compost tout sec. On obtient un compost très propre finalement, tout sec, dans lequel on peut mettre nos mains. Et puis les larves, on peut les utiliser comme protéines animales pour aller nourrir les poules chez notre ferme partenaire parce qu'on va récupérer des œufs. Et puis qu'est-ce qu'on peut ? On peut les utiliser aussi pour la pisciculture par exemple. Et donc la particularité de ce caisson, c'est qu'il est en communication directe avec nos toilettes. Donc si vous voulez, là ce que vous avez vu au fond, eh ben, c'est nos déchets organiques du matin, des toilettes, qui ont été complètement dégradés. Donc vous avez bien vu, hein, ça sentait pas trop.
Non, non, aucune odeur, voilà. Je confirme. Et d'où viennent ces larves, Corentin ?
Alors c'est des mouches soldats noirs, c'est un type de mouche qu'on trouve un peu partout dans le monde. Nous on a créé un élevage, toutes les deux semaines il y a deux éleveurs à Boulogne-Billancourt qui nous donnent des bébés larves et pendant deux semaines elles grandissent en mangeant nos déchets et au bout de deux semaines on les récolte pour ensuite les donner aux poules. Alors c'est des filières que Emma a créées temporairement le temps de l'expérience parce qu'on pense que ça existera en 2040 mais aujourd'hui à Boulogne-Billancourt il n'y avait toujours pas d'éleveurs de mouches.
Donc on peut aller voir Thomas ?
Oui, on a nos éleveurs de Boulogne, c'est Solène et Thomas. Thomas habite juste à côté, vous pourrez aller le voir.
On va aller voir Thomas maintenant, puis ensuite on vous retrouve dans l'appartement.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Retour dans la rue en 2024, nous sommes donc dans les rues de Boulogne et nous marchons vers chez Thomas qui élève donc des larves de mouches.
Bonjour.
Mathieu.
Tu connais son nom ?
Thomas Riveau.
68. Cours, rez-de-chaussée.
C'est donc à droite au fond du couloir. Alors, ça doit être cette porte-là. Bonjour, c'est vous Thomas qui élevez des larves de mouches ?
Oui, tout à fait. J'élève comme je peux, ouais.
Oui, alors on peut rentrer chez vous.
Vous pouvez voir juste en face de vous les larves en question.
Alors,
c'est pour les mouches en fait.
Ah oui, ça se passe là.
Les larves vont être sur la gauche dans l'incubateur.
Voilà, donc c'est deux carrés en bois reliés par du tissu qui permet de mettre les mouches à l'intérieur. Ça évite qu'il y en ait partout dans votre appartement.
C'est ça, exactement. L'intérêt aussi de ce tissu, c'est qu'il est facile à laver, parce qu'il est en coton. Et surtout, il est transparent, il n'est pas complètement étanche, ce qui permet aux mouches de respirer. Et donc, ça permet à la lumière du soleil de rentrer. Et ça, c'est un facteur extrêmement important, parce que c'est un des facteurs de l'accouplement des mouches. S'il n'y a pas de soleil, elles ne se lancent pas.
Vous êtes devenu expert finalement en mouches noires là, quand vous nous parlez de l'accouplement, des heures de soleil.
J'ai acquis pas mal de compétences, je pense. En tout cas, forcément, quand on pratique, on apprend plus vite. Expert, non, il y a encore plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion d'expérimenter différentes façons de faire au sein de cet appartement pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas.
Parce qu'alors, vous récupérez des larves ?
Alors, on récupère en fait des œufs. Donc ça se présente un peu comme plein de petits grains de riz qui seraient agglutinés.
Et après ?
On va les déposer sur un petit maillage qui va ressembler à ceci.
Donc ranger. Vous les déposez sur un petit quadrillage qui est situé en haut d'un bocal.
Après on le met dans l'incubateur, donc cet espace que je vais vous montrer juste après, qui est chauffé, qui est maintenu à peu près à 27 degrés. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les œufs vont éclore et il y a des toutes petites larves, vraiment, vraiment à peine discernables, qui vont se déplacer et qui vont passer à travers le maillage et qui vont tomber dans un pot où on aura au préalable mis une certaine dose de nourriture avec de l'eau. Et pendant à peu près 4 jours, les larves vont manger et elles vont grossir de manière incommensurable.
Oui, on les voit qui bougent, ouais, là, on les distingue bien. Et au bout de combien de temps vous faites vos livraisons à Corentin et Caroline ?
Il faut prévoir à peu près 4 jours, le temps que toutes les éclosions aient lieu et qu'elles tombent toutes au fond du pot. Il faut reprévoir à peu près 4 jours pour qu'elles atteignent une taille suffisamment intéressante pour qu'on puisse commencer à les mettre dans un bac de dégradation de déchets alimentaires. On table à peu près sur une moyenne de une fois par semaine.
Donc vous avez vos mouches noires qui se reproduisent, qui font des œufs. Ces œufs, vous les incubez dans un appareil qui font des larves. Et ce sont ces larves que vous emmenez en fin de semaine pour contribuer donc au compost de Corentin et Caroline.
Exactement.
C'est quand même assez précis. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette expérience? Parce que c'est un vrai investissement, ça vous demande beaucoup de temps.
En fait, moi je m'intéresse déjà au low-tech, bien avant Biosphère 3. Et donc du coup, je suis dans une association qui s'appelle Low-Tech Lab Paris, qui à la base a été fondée par Corentin. Et comme dans un futur lointain, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est autonomie alimentaire, je voyais que ce petit insecte était particulièrement puissant à transformer de la matière organique, qui n'est même pas comestible, en matière potentiellement organique, soit pour les humains, soit pour l'alimentation animale. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il y a une expérience à quelques pas chez moi qu'il faut que j'en profite pour faire un partenariat et apprendre des choses.
Et alors pourquoi vous dites que vous êtes intéressé dans un futur lointain à l'alimentation low-tech? Parce que vous pensez à comment va se développer l'état du monde?
Oui, c'est ça. Je souhaite une société plus résiliente. Et donc du coup, je pars aussi du principe qu'avec tout ce qui touche au dérèglement climatique ou même avec tous les pesticides qu'on a mis dans le sol, je pense qu'on va devoir faire plus avec beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que l'une des ressources qu'on a à disposition maintenant pour faire ça, c'est le temps. Donc je préfère anticiper les problèmes pendant qu'on a encore la possibilité de revenir en arrière et de recommencer et de faire plein de petites expériences parce qu'en réalité, pendant une crise ou une succession de crises, on n'innove pas. Voilà, c'est ma vision.
Donc vous préparez à l'avenir, là?
Oui, et j'espère que tout ce que je pourrais faire qui préparera à l'avenir peut être potentiellement exporté aux autres, parce que je pense que moi, tout seul, je peux faire plein de petites choses très rigolotes, mais en réalité, ça ira pas loin. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais de rien. Avec plaisir.
Elle squatte le dos d'une jument. La mouche qui l'accueille amicalement. Dans un boire à Provençal, aux écuries 5 étoiles. Ne lui parlez pas d'excréments, ah non. Ni de distraire les enfants, ni de hanter la palefrenière. Non, elle, c'est les milliardaires. La mouche qui emmerde les milliardaires, qui fait la misère aux puissants. La mouche qui emmerde les milliardaires, qui fait la misère aux puissants.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, nous explorons la vie quotidienne en 2040 avec Corentin de Châtel-Perron et Caroline Pulz. Ils démontrent avec leur biosphère expérience dans un appartement en banlieue parisienne qu'avec une vingtaine de technologies innovantes, c'est possible d'économiser l'énergie et l'eau. En plus, c'est durable et c'est désirable. Allez, je vous propose de poursuivre la visite. Donc là, nous arrivons de chez Thomas, qui nous a montré son élevage de mouches. C'est vrai que c'est assez rigolo de voir ça en pleine ville, près de Paris. Et vous arrivez quand même à motiver les gens pour participer. C'est quand même un vrai travail aussi d'animation de communauté.
Eh ben ouais, mais il y a pas mal de gens qui réfléchissent à comment changer leur mode de vie pour que ce soit plus écologique aussi, pour que ce soit que c'est plus de sens, etc. Et Thomas en fait partie, donc ça fait plaisir de collaborer avec ces gens-là.
Donc pour faire le lien directement avec ce que nous venons de voir avec Thomas, on vous retrouve dans la partie sanitaire de l'appartement.
Alors, donc là, les toilettes.
Les toilettes.
Dans lesquelles les larves de Thomas font des merveilles. C'est des toilettes du coup à séparation d'urine, et donc c'est là qu'on met les bébés larves. Toutes les deux semaines.
Ici. Séparation d'urine pour récupérer l'urine, comme vous disiez tout à l'heure, pour faire de l'engrais pour les plantes.
Il y a une partie de l'urine qui sert pour les plantes et une partie qui va chez Albert, le biodigesteur, qui aime ça aussi.
Donc c'est une grande douche qui est, pour essayer de décrire pour les auditeurs, dans une sorte de caisse en bois. Mais les parois de la douche sont transparentes et entourées de plein de choses. Alors expliquez-nous, Caroline, il y a des champignons dans votre douche?
Oui, alors il y a des champignons à manger, parce qu'en fait la douche, on s'est rendu compte que c'était l'espace idéal pour cultiver des champignons comestibles dans un appartement.
Parce qu'il y a beaucoup d'humidité.
Ouais, tout à fait, et puis il fait sombre, donc c'est parfait pour eux. Et donc pour vous donner une idée, chaque semaine on peut récolter jusqu'à 1,5 kg de pleurotes comestibles. Donc là on a des pleurotes roses et on avait des pleurotes beiges.
Donc ça fait des pleurotes à manger avec les grillons.
Effectivement, ouais, et on adore ça. Donc on fait le plein de vitamines. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est des plaques d'isolation en mycélium. Et donc, à chaque fois qu'on sort de la douche, on a les pieds trempés et on voit comment ça va réagir dans les mois à venir. Et donc, il n'y a pas que ça dans la douche champignonnière. Elle a la particularité, cette douche, de consommer très peu d'eau et très peu d'énergie. Donc là, typiquement, pour chauffer l'eau, on a un petit chauffe-eau qu'on a construit nous-mêmes, de toutes pièces. Donc, il a un petit volume de 2 litres d'eau. Donc, on est raccordé à l'eau, sauf qu'on en consomme vachement moins que d'habitude. Donc, une douche classique, c'est environ 60 litres d'eau. Là, on est environ 5 litres par douche. Pourquoi ? Parce qu'on a un système de brumisateur. Donc, au lieu d'avoir un pommeau de douche classique, on a un brumisateur au-dessus de la tête, un autre côté corps, et puis la petite douchette. Donc, vous allez voir, le fait de brumiser, ça divise pas mal la consommation en eau. Donc, vous avez une petite brume comme ça. Alors, ça brume, mais c'est comme si c'était un crachin breton. Donc, ça lave quand même. Et donc, on se lave avec ça. Donc, ça lave très bien. Les cheveux aussi, ça marche super bien.
Ça doit être agréable, d'ailleurs.
Alors, ce qui est génial, c'est qu'au début, l'eau est très, très chaude. Donc, on a les 2 litres d'eau qui ont été chauffés grâce au panneau solaire. Et au fur et à mesure que la douche se passe, l'eau devient de plus en plus froide, mais c'est très, très doux. Et en sortie de douche, l'eau était très, très froide. Donc, vous avez une douche tonique, quoi. C'est ça.
Et alors là aussi, Corentin, il y a des gens qui expérimentent cette douche chez eux ?
Oui, effectivement, là on essaye tout ça sur nous-mêmes, mais on a lancé le défi à des gens de tester différentes briques de notre biosphère, dont la douche. Il y en a qui essayent de se doucher avec un système à peu près similaire.
Mais on va peut-être aller voir Emma, justement, puisque c'est elle aussi qui a fédéré Thomas dans cette expérience pour comprendre comment se passe la dimension participative. On vous laisse dans l'appartement. En plus, vous avez sûrement plein de trucs à faire là, non ?
En fait, ça nous prend un petit peu de temps tous les matins de s'occuper de cet écosystème, mais c'est du temps qu'on trouve agréable. C'est quinzaine de minutes,
15 minutes chacun,
par jour.
On va nourrir les grillons, on s'occupe des plantes, on récolte un petit peu les champignons et on les pèse. Voilà, c'est pas grand-chose. Hein.
Après, on a un petit peu de temps à aller voir les différents interlocuteurs comme Thomas pour récupérer des grillons, récupérer des larves, etc. Et on passe une demi-journée par semaine dans une ferme à laquelle on donne nos larves. Puis on fait un peu de maraîchage pour récupérer des légumes et les œufs des poules. La plus grande différence, je pense, c'est qu'il faut beaucoup plus anticiper sur la nourriture, par exemple. On n'a que des produits qui sont bruts. Et des systèmes de cuisson qui sont pas, c'est pas comme un micro-ondes où on a faim, paf, on met le truc dans le micro-ondes, ça chauffe et en fait il y a aucune nourriture transformée ici. Et donc il faut plutôt anticiper. Par exemple la veille, on va réfléchir au plat qu'on va faire le lendemain. Donc quelquefois il y a des trucs à faire à moudre ou à faire fermenter ou à pré-cuire, etc. Donc c'est la grosse différence et ça demande juste un temps d'adaptation.
Et puis finalement on aime bien vivre comme ça parce qu'on ne change pas grand chose, on continue à vivre normalement entre guillemets sans consommer énormément en eau, en électricité. Donc voilà, moi je dirais que c'est génial.
C'est juste compliqué peut-être de recevoir des amis à dîner par exemple.
Le problème, c'est que nous, on est en 2040 et nos amis, ils sont toujours en 2024. Et du coup, il faut s'adapter.
On va aller voir Emma et on vous retrouve, on vous laisse nourrir les grillons et faire tout ce que vous avez à faire. Et on revient dans un instant, à tout de suite. Nous retournons au premier étage où nous étions au début de l'émission pour aller dans les bureaux, l'organe qui soutient l'expérience de la biosphère. Et nous retrouvons Emma. Bonjour Emma.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Donc vous êtes dans un bureau juste en dessous de la biosphère. Alors vous occupez toute la dimension participative. Donc nous sommes allés voir Thomas qui habite pas très loin d'ici, qui élève les mouches pour faire les larves qui permettent de faire le compost des déchets organiques et des déchets des toilettes. Et donc, c'est vous qui avez recruté tous ces volontaires. Ils sont combien aujourd'hui ?
On a 14 personnes sur le territoire de Boulogne-Billancourt qui participent à cette expérience pendant 4 mois. Et donc, en fait, ces personnes-là expérimentent des choses chez elles, des systèmes et pratiques low-tech chez elles, et sont en lien assez régulièrement avec Corentin et Caroline pour faire fonctionner tout l'écosystème de l'appartement.
Et au-delà de ces 14 personnes, il y a beaucoup plus de personnes qui, en France et dans d'autres pays d'ailleurs, expérimentent des choses chez elles pour avoir des retours d'expérience plus larges que simplement ce que vivent Corentin et Caroline. Là, il y a combien de personnes et combien d'expériences en cours en ce moment ?
Du coup, on a environ 400 personnes en France principalement, mais aussi à l'étranger, qui expérimentent des systèmes et pratiques low-tech chez elles. Et ça représente environ 800 expériences citoyennes. On a environ 2 missions qui sont expérimentées par personne. Et ces expériences, elles ont commencé en septembre et elles durent majoritairement 2 mois, donc jusqu'à fin octobre.
Alors, quelles sont les expériences en cours ?
Alors, on a donc 8 missions. Donc notamment, on a la mission maraîchage. Donc, on a des groupes de citoyens qui vont s'organiser sur leur territoire pour trouver une ferme biologique et se rendre toutes les semaines à la ferme pour aider les maraîchers dans leur pratique et repartir en fin de journée avec des fruits et légumes frais. Après, on a une mission qui s'appelle donc la bioponie. Donc, on a à peu près 180 personnes qui vont tester un système de culture en hydroponie, donc à peu près le même qu'on a vu dans l'appartement. La troisième, c'est menu low-tech. Donc, on a environ 190 personnes qui vont tester un régime alimentaire sain, durable et désirable. Donc, j'ai écrit un livret de recettes en collaboration avec un micronutritionniste qui a expliqué plein de choses sur la nutrition, comment manger sainement. On a donc élaboré des compositions de repas équilibrés.
Ça ressemble à quoi un menu low-tech ?
Eh ben, en fait, on peut imaginer dans son assiette une portion de riz complet, une portion de céréales complètes de type pois chiches, haricots, ce genre de choses, une petite portion de tomates lactofermentées, par exemple, qui ont un goût assez acide, et des légumes crus, cuits, après avec des légumes de saison qu'on a dans son frigo.
Alors, les autres missions ?
Donc, on a aussi la mission grillon, donc on a une trentaine de personnes qui vont élever des grillons chez eux, du stade bébé au stade adulte, et ensuite ils vont expérimenter leur consommation. Et mine de rien, en fait, ça a plu à pas mal de personnes, donc on est assez étonnés de ça, c'est assez chouette. Alors, on a maintenant la mission pleurote, où en fait, les personnes vont recevoir des kits de culture auprès d'un de nos deux fournisseurs.
Et puis, il y a la douche, on en parlait tout à l'heure avec Corentin et Caroline, cette douche avec des brumisateurs, au lieu d'avoir un pommeau de douche classique. Et là, il y a pas mal de personnes qui ont accepté de tester.
Oui, on a 170 personnes qui expérimentent la douche à brumisation. Donc, c'est vraiment le même concept que dans l'appartement. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir un peu voir les consommations d'eau des participants. Donc, ils ont une semaine pré-expérimentale début septembre pour voir un petit peu leur consommation d'eau sur une douche classique. Et là, depuis hier, ils ont testé la douche à brumisation et puis on collecte des données sur leur consommation d'eau au quotidien et puis aussi ce que ça génère chez eux de tester de nouvelles habitudes d'hygiène.
Et vous, Emma, vous avez beaucoup de suivi de toutes ces personnes qui participent parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui doivent surgir sur justement l'utilisation, sur le bricolage, où ça tombe en panne, ça ne marche pas.
Oui, effectivement. Alors déjà, donc j'ai fourni des tutoriels écrits et vidéos qui sont disponibles en open source sur le wiki du Low-Tech Lab. Donc ça, tout a été diffusé en juillet. Les personnes ont eu 2 mois pour fabriquer leur dispositif, recevoir tout ce qu'il fallait des fournisseurs et être prêts pour débuter les expériences en septembre. Et par ailleurs, j'ai mis en lien toutes ces personnes-là par zone géographique via des conversations WhatsApp pour qu'ils puissent aussi s'entraider.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous laisse parce que là, j'imagine que vous avez pas mal de travail.
Oui, j'ai pas mal de questions à répondre là.
Ok, bonne journée. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Corentin, là, nous sommes au premier étage où donc c'est un peu la base arrière de... l'appartement. Ouais. Et il y a des machines en construction. Qu'est-ce qui se passe là ?
En fait, on imagine que dans l'immeuble du futur, il y aura des espaces partagés entre les différents appartements. Et c'est comme ça qu'on a pensé à faire un fitness club utile. Donc, c'est des machines qui permettent de faire différentes choses. Et c'est Johnny qui gère cet espace-là. Il est anglophone, donc je vais lui demander en anglais. Johnny, could you present the fitness club ?
Bonjour, Johnny.
Yes, okay. We're trying to show that actually a human being.
En fait, il dit qu'un humain, il peut générer 250 watts.
Actually, that's enough energy to do most household chores.
Et en fait, c'est assez d'énergie pour faire la plupart des choses qu'on fait au quotidien dans la maison.
If your intention is to not use any other form of energy.
Si tu veux éviter d'utiliser de l'énergie électrique. En fait, tu peux construire plein de machines qui utilisent la force manuelle pour faire tout ce que tu as besoin de faire dans une maison.
Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous, là, par exemple ?
This first one, actually, is I live in India.
Alors, Johnny vit en Inde et il explique que cette machine-là, qui est reliée donc à un vélo, c'est un espèce de moulin qui moue du riz pour faire des gâteaux à base de riz.
So actually, it's a bicycle going backwards.
En fait, c'est une bicyclette retournée à l'envers. Donc, on pédale à l'endroit où il y avait le guidon et à l'endroit où il y a le siège. C'est là qu'il y a cette espèce de moulin qui tourne grâce à une roue qui l'a remplie de béton pour donner un petit peu d'inertie. Et ça, il l'utilise depuis des années, toutes les semaines en Inde.
Et à côté, il y a un rameur.
A rowing machine that uses the action of.
Alors ça, c'est un rameur qu'on a récupéré et qu'il a connecté avec une machine qui pétrit la pâte à pain. Donc on peut mettre de la farine, de l'eau, et en faisant ce mouvement qui est assez efficace de rameur, on peut actionner la machine.
Et alors à côté, il y a un autre rameur qui est relié à une machine à laver. Alors ça marche, ça ?
Exactly. This is a. I mean, it's very simple to see, but you can take a normal household item.
En fait, ça montre cette machine-là que tu peux récupérer une machine existante et juste faire quelques petites modifications pour la rendre mécanique. Et là, donc, c'est une machine à laver. Il a enlevé le moteur. Il a relié à une courroie reliée à un rameur. Et donc, quand on tire sur le rameur, il explique que c'est super satisfaisant de pouvoir laver ses affaires.
Et tout ça, donc, Corentin va être mis à disposition de qui ? C'est vous qui allez ramer, pédaler
Alors là, il y a encore un petit peu de boulot, mais le Johnny Fitness Club va être ouvert d'ici 2 semaines et donc les gens du quartier pourront venir l'utiliser et les gens qui travaillent dans l'association.
Et derrière le côté ludique de ces appareils, c'est aussi pour démontrer de quelle quantité d'énergie nous avons besoin finalement pour faire du pain, moudre ou faire tourner une machine. En fait, nous, dans nos maisons, on reçoit du 220 volts sans toujours se demander d'où ça vient. Et là, le fait de s'engager physiquement, ça permet de comprendre la quantité d'énergie nécessaire pour faire quelque chose.
C'est vrai qu'on ne se rend pas compte derrière chaque objet électrique du quotidien. C'est juste un bouton et une prise. On ne sait pas du tout combien d'énergie transite via cette prise. Et en fait, on se rend vite compte que faire chauffer de l'eau, par exemple, pour prendre une douche ou dans sa bouilloire, c'est énormément d'énergie. Mais par contre, charger un téléphone portable ou alors une machine à pain ou l'action de mécanique de la machine à laver, c'est moins d'énergie. Donc en fait, ça permet de comme ça sensibiliser un peu sur ce qu'on consomme aussi, oui.
Merci Johnny, thank you.
Thank you.
Re-rentrons dans l'appartement, donc nous allons entendre à nouveau les grilles. J'ai quand même une question à vous poser, parce que là c'est assez... fantastique, hein. Moi j'avoue que je suis éblouie, c'est très ingénieux, vous avez pensé à tout, mais ça sous-entend quand même une approche très sobre du quotidien. On est entouré, là, dès qu'on va sortir de votre immeuble, on tombe sur des magasins, des sollicitations de nourriture, de consommation, etc. Là, vous vous extrayez totalement de la société de consommation. Est-ce que psychologiquement, ce n'est pas trop dur ?
Eh ben ouais, c'est une excellente question parce que c'est ce qui est le plus difficile. Quand on était dans le désert, on était loin de tout, donc il n'y avait pas l'accès à, je sais pas, une boulangerie, un vendeur de glace. Et là, en fait, le plus dur, c'est de se dire, ok, non, on est en 2040, ces trucs-là n'existent pas, et de vivre un peu de manière, je sais pas, qu'est-ce que tu dirais,
Caroline, vous n'êtes jamais allée acheter un petit croissant en douce ?
Non, mais je suis pas d'accord. En vrai, on continue à aller au restaurant, sauf qu'on les choisit bien, on essaie qu'ils soient locavores le plus possible, etc. Donc on continue à vivre la vie citadine. C'est juste qu'on adore cuisiner, donc on met ça à profit avec une cuisine low-tech, etc. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait.
Oui, oui, non, c'est clair. Non, mais par exemple, quand on veut acheter quelque chose à manger, le fait qu'il faille que ce soit bio, local, sans déchets et pas cher, c'est quand même, Caroline avoue que ça, c'est quand même une contrainte. On peut pas, quand t'as un petit creux, aller acheter un paquet de chips, par exemple.
Je suis d'accord avec toi, mais du coup, comme on aime cuisiner, bon, on anticipe avant, on fait les biscuits avant, etc. Et ben, comme toute personne qui vit en zéro déchet, qui fait du vrac, etc., qui s'organise avant, finalement.
Alors, ça va durer combien de temps, cette expérience ?
Elle dure 4 mois, elle a commencé mi-juillet et se termine mi-novembre. Et c'est 4 mois pendant lesquels on mesure tout. Donc à la suite de l'expérience, on va pouvoir débriefer avec tous les scientifiques qui nous accompagnent sur le côté ergonomique, sur le côté désirable.
Alors ergonomique, ça veut dire quoi ?
Par exemple, on a une appli et on rentre en permanence l'activité qu'on est en train de faire. Donc là, par exemple, c'est ça, il y a plein de petites cases. Si je prépare un repas, je clique dessus. Si je mange, si je me douche, etc. Et à la fin, il y a un ergonome qui va analyser la vie quotidienne en 2040. Comment elle serait, comment se découpent nos journées, nos semaines, etc. Est-ce que c'est une vie qui est faisable par des millions de personnes ? Il y a le côté santé, où là, la semaine prochaine, il y a l'université de Caen qui vient avec médecins et différents spécialistes pour nous faire faire des tests d'effort. Il y a un nutritionniste qui analyse notre sang avant et après l'expérience, qui regarde si on développe des carences ou si au contraire on est en meilleure santé. Il y a une personne qui nous suit sur le côté empreinte écologique, qui regarde vraiment comment on a aménagé l'appartement et qu'est-ce qu'on consomme au quotidien pour voir si on passe bien sous l'objectif des 2 tonnes. Enfin bref, c'est plein de personnes qui nous aident à débriefer de l'expérience grâce à toutes les mesures qu'on aura faites et pour voir si effectivement, imaginons que des millions voire des milliards de personnes se mettent à ce mode de vie d'ici 2040, est-ce que la planète serait mieux ou est-ce que ce serait l'enfer ?
Mais là, Corentin, on est au cœur du problème finalement. Tout le monde sait qu'il faut réduire, qu'il faut arriver à 2 tonnes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut gagner en sobriété, consommer moins, mais personne n'a envie de le faire.
Et en fait, c'est exactement le défi qu'on s'est donné, c'est qu'on se rend compte que les gens ne veulent pas changer si c'est une contrainte. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à montrer qu'il y a un futur désirable qui est possible et qui est low-tech et qui matche avec les contraintes de la planète. Et il faut qu'on arrive à montrer une image de ce que pourrait être le futur et qui soit une image enthousiasmante, en fait, et attirer les gens par le rêve plutôt que les pousser par la contrainte.
Mais là, on est entre nous, au-delà de l'expérience. Une fois que l'expérience sera terminée, vous allez revivre normalement ?
Alors nous, maintenant, on vit low-tech en permanence, mais par contre, on vivra peut-être pas en ville parce qu'on trouve que c'est quand même un milieu extrême. Ça fait beaucoup de monde quand même.
Oui, le monde vous oppresse.
En fait, moi, j'aime bien avoir une vue sur la mer ou sur la nature, être vraiment au cœur d'un écosystème sauvage et naturel. J'ai grandi là-dedans et là, ça me manque un petit peu en ville. Il y a des gens qui, au contraire, sont plus réconfortés quand il y a du monde autour. Mais je crois que nous, on appartient plutôt au monde sauvage.
Qu'est-ce que vous allez faire en priorité une fois que vous aurez terminé l'expérience ? Qu'est-ce qui vous manque le plus, là ?
Moi, je me suis arrêté, par exemple, de manger du chocolat parce que c'était pas local, c'est pas très écologique, etc. Peut-être que je commencerai par manger quand même un petit carré de chocolat. Mais j'en mangerai moins qu'avant et en tout cas, je sentirai à quel point il est précieux.
Il y a quand même des petits manques, vous nous rassurez. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette visite, cette expérience, ce partage. Et donc, on peut vous suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux ?
Ouais, biosphère.expérience, c'est un compte Instagram sur lequel on met pas mal de petites vidéos qui présentent chacun des systèmes.
Alors, TikTok, LinkedIn, YouTube, enfin la totale des réseaux sociaux. Et tous les mercredis digitaux, on publie une petite vidéo d'une minute qui explique un peu les low-tech de la maison.
Voilà, c'est partagé. Merci à tous les deux et puis bonne suite d'expérience.
Merci beaucoup.
Bon retour dans le passé.
Nous ne pouvons que vous inciter à suivre cette expérience sur les réseaux, à aller sur le site aussi wiki.lowtechlab.org pour expérimenter ce qui vous tente. Et vous retrouverez Corentin chaque dernier mercredi du mois dans le club de C'est pas du vent. Merci à Caroline Fillette pour la préparation et à François Porcheron pour la réalisation de cette émission.
Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.